Bonjour mes bien-aimés, que la paix et l'immense grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous en ce jour encore. Soyez bénis en son nom. Je vous retrouve aujourd'hui pour que nous poursuivions notre étude sur le merveilleux texte d'Ésaïe 54 de notre Bible. Nous allons poursuivre l'étude que nous faisons sur la série que nous avons intitulée « Élargis l'espace de ta tente ». Qui fait partie des instructions données par notre Seigneur en cette saison à son peuple, dans son texte d'Ésaïe 54. Nous avons étudié déjà des versets 1 jusqu'au verset 11, et nous sommes rendus aujourd'hui à l'étude du verset 12. Nous sommes dans la partie concernant les actions de Père, qui prend la peine dans ce texte de nous expliquer, de nous parler de son mode opératoire, de comment est-ce qu'il veut procéder avec nous si nous mettons en pratique, si nous obéissons aux instructions qu'il nous donne en son verset 2, d'élargir l'espace de notre tente, de ne rien retenir, d'allonger nos cordages et d'affermir nos pieux. Nous avons étudié tout ça dans les messages précédents. Et aujourd'hui, dans les actions, nous sommes rendus donc au verset 12. Nous allons lire pour nous recamper dans le contexte les versets 1, 11 et 12 qui correspondent à ces cinq actions qu'il a libérées dans ce message. Et nous allons nous attarder aujourd'hui dans son verset 12. Amen. Mais avant cela, nous prions. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Papa, tu es haut. Nous te célébrons tous les jours. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Oui, notre Maître qui nous a enseigné, qui a tout payé pour nous à la croix, pour rendre possible ces connexions, pour rendre possible ces moments, au Père, où nous venons devant ta face au Père éternel, blotti en lui, au Seigneur du Père Tout-Puissant, revêtu de Christ comme d'un vêtement, au Père éternel. Oui, conduit par ton esprit, mon Jésus. Nous te glorifions, au Père éternel. Tu es Dieu, Papa. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le Mighty God. Tu es élevé, tu es majestueux. Oui, Seigneur, et ton amour, ô Père éternel, nul de comparable. Nous te louons, nous te glorifions en toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit en toutes choses, notre ami, viens. Prends place, prends contrôle de tout ce temps de méditation. Je t'invite maintenant à être le maître ici. Prends contrôle de tout. Je te soumets toute ma volonté. Viens, habite ton temple. Que mon Seigneur Jésus a sanctifié pour que tu l'occupes. Meut-toi, parle par ma bouche, exprime-toi, exprime la pensée de Père, nourris-nous, enseigne-nous, révèle les pensées de Père, révèle les mystères de Père. Oui, afin que notre foi soit édifiée, afin que notre foi soit grande, oh, afin que nous ayons la praticabilité de l'obéissance que nous mettons à la parole de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Seul toi es capable de nous rendre capables. Seul toi es capable de nous conduire dans l'agréabilité de Père. Qu'il en soit ainsi, dans ce temps et à toujours, pour la gloire de notre Seigneur, pour l'avènement du royaume et pour glorifier notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole. Nous allons lire le texte d'Ésaïe en son verset 11 et 12. Après nous avoir donné ces instructions, nous avoir dit en quoi consistent ces promesses au verset 3 et nous avoir conduit dans l'assurance de sa restauration du verset 4 au verset 10, il a pris la peine de nous fixer, de nous introduire dans son mode opératoire. Au verset 11, il dit « Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Je te donnerai des fondements de saphir. » Il continue. « Je ferai tes créneaux de rubis. » Nous avons étudié ces trois dimensions déjà. Et nous avons été largement bénis, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Car il nous dit, « Je ferai tes créneaux de rubis. » Et il poursuit, « Tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. » « Je ferai tes créneaux de rubis. » Nous l'avons étudié. Et il dit, « Je ferai tes portes d'escarboucle. » C'est ce qui va retenir notre attention aujourd'hui. C'est ce qui va faire l'objet de notre méditation, de notre travail, de notre dépouillement aujourd'hui. Je ferai tes portes d'escarboucle. C'est ce qui va retenir notre attention aujourd'hui. Oui, le Seigneur nous dit qu'il fera nos portes d'escarboucle. Alléluia. Voilà. Nous voyons dans ce verset deux mots particuliers, porte et escarboucle. Comme d'habitude, nous allons aller chercher plus en profondeur ce que ça peut vouloir dire, afin que ça nous parle, afin que nous puissions saisir les bénédictions qui sont contenues dans cette parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Il faut que cet esprit et cette vie soient libérés dans nous. En nous. Pour ça, il faut que nous puissions les comprendre. Nous puissions en avoir la révélation profonde de la pensée de Dieu au travers de ce verset. Amen. Tes portes d'escarboucle. J'ai l'habitude d'insister sur les « tes », les « des ». Et ici encore, il dit « tes portes ». Ça veut dire comme lorsqu'il nous parlait des créneaux, il dit « ce sont tes portes ». Donc, ces choses sont à nous. C'est encore quelque chose que le Seigneur veut transformer en nous. C'est des choses que nous actons tous les jours, c'est des choses que nous possédons déjà en nous, c'est des choses avec lesquelles nous évoluons tous les jours, mais l'Éternel veut les transformer, l'Éternel veut les améliorer afin que nous puissions marcher avec lui dans la victoire. Amen. Donc, nous voyons les portes. Et nous savons, quand nous lisons la Bible, que la Sainte Bible, la parole de Dieu, vraiment révèle beaucoup de versets dans lequel on parle des portes. Il y a une réelle problématique dans la Bible, qui est la problématique des portes et des clés. Beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de révélations tournent autour des portes et des clés. Les portes fermées, les portes ouvertes, les portes à frapper énormément. Et cette problématique est vraiment présente. La nécessité de trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. Pour une vie victorieuse du chrétien, la nécessité dans la parole de Dieu de pouvoir avoir les clés qui ouvrent les portes. Et la parole nous parle même de la clé des clés, la clé de David. Il dit celui qui a la clé de David a tout. Et la clé des clés, le puissant nom de Jésus. Donc, quand l'Éternel nous parle de nos portes, c'est qu'il y a certainement quelque chose de profond que nous devons saisir là-dedans. La notion de porte et de clé est tellement importante à l'Éternel que lorsqu'il a bâti son royaume et a désigné celui qui allait être la tête de proue de son église qu'il voulait bâtir, l'apôtre Pierre, notre prédécesseur dans les disciples de Jésus que nous sommes, avant de partir, il lui a remis les clés du royaume. Il lui a remis les clés du royaume. Ça veut dire à quel point c'est important. Parce qu'il y avait des portes dans le royaume qu'il fallait forcément ouvrir ou fermer. Il dit dans Matthieu, la parole nous dit dans Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » C'est Jésus qui parle. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. C'était une façon de donner à Pierre les solutions à toutes les situations qui pouvaient se présenter au devant de lui et pour toute l'Église. Donc c'est important, mes frères et mes sœurs. Cette problématique des portes, ces notions des portes, Dieu insiste dessus aujourd'hui et il nous dit « je te les ferai d'escarboucle ». Moi j'ai envie de comprendre parce que je veux vraiment que mes portes soient comme l'Éternel veut qu'elles soient. Parce que c'est pour moi la meilleure solution. Amen. Et je pense pour vous aussi. Les portes ouvertes peuvent être l'image sont généralement l'image d'une bénédiction, l'image d'un accès libre, l'image d'une voie royale grandement ouverte, l'occasion d'un service pour Dieu. Mais il y a aussi l'image des portes fermées qui représente une limitation, qui représente une impossibilité d'accéder à quelque chose, de bénir, une impossibilité d'entrer quelque part. Une porte fermée, c'est une obligation de dévier. C'est aussi un jugement. Ça peut être un jugement que l'on établit sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un système, sur une situation, sur une ville. Lorsque je vais prendre comme ça quelques versets, puisqu'il a un peu retenu mon attention pour illustrer tout ça. Dans Ésaïe 45, son verset 1, j'ai pris ce verset, c'est l'Éternel dit, Ésaïe dit au peuple, ainsi parle l'Éternel à son oint. Ça a retenu mon attention, je vais vous dire pourquoi, parce que ça s'adresse à Cyrus. Et Cyrus, nous savons que c'était le roi Perse. Nous savons que le Perse, ce n'est pas le peuple de Dieu. Mais c'est pour vous dire à quel point, lorsque le Seigneur décide de faire quelque chose, lorsqu'il a un projet pour accomplir, la Bible nous dit qu'il suscite de tout, qu'il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Voilà. Il s'adresse à Cyrus parce qu'il veut utiliser Cyrus pour une bénédiction de son peuple, en tout cas pour une mission qu'il veut confier à son peuple, parce que quelque chose doit être fait, une mission de restauration doit être faite, et il suscite dans le cœur de Cyrus, qui, moi je dirais, est un roi du peuple ennemi, et l'image de l'adversité par rapport à son peuple, mais il le suscite à son oint. Écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe 45. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Alléluia! Afin qu'elles ne soient plus fermées. Oh! Quand l'Éternel tient quelqu'un par la main, la personne peut être vraiment dans une assurance totale, parce qu'il va lui ouvrir les portes, et ces portes ne seront plus jamais fermées devant lui. Il le fait quand il a suscité même des ennemis pour accomplir son œuvre, combien de fois son peuple, combien de fois toi ou moi, mon frère, si nous demeurons dans l'obéissance de Père, si nous demeurons en Jésus-Christ notre Seigneur pour suivre ses pas. Oh. Apocalypse aussi 3, à son verset 8, dit ceci, « Je connais tes œuvres. » Lorsque l'Éternel s'adresse aux églises, il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. La parole de Dieu regorge de tellement de portes. C'est un mot, le mot commun, c'est l'un des mots communs de la Bible qui est le plus cité dans la Bible. Il y a des portes, vraiment partout, je vais juste en citer quelques-uns. La porte des parvis, pour aller en tabernacle. La porte des brebis, notre Seigneur le dit, lui-même il est la porte des brebis. Toutes ces portes ont des significations. La porte de la ville de Jérusalem, il y en avait 12. De la Jérusalem céleste, il y en avait 12. Et chacune de ces portes avait une signification précise et avait un rôle précis, un but précis. Et menait précisément quelque part, on y faisait des actions assez spécifiques. Il y a la porte des cieux. Les portes peuvent être des reins, les portes de prison, des séjours des morts, de suite. Il y a les portes de la gueule qui avalent, les portes de la bouche, les portes de l'âme, les portes du cœur, les portes des pensées. Il y en a tellement et de tout genre, mes frères, mes sœurs. La notion des portes est une notion qui est fondamentale. Et l'Éternel nous dit que dans son processus, dans son mode opérationnel, pour pouvoir nous amener avec lui, il va agir sur nos portes. Il faut qu'il transforme nos portes. Il nous dit qu'il va faire des portes d'escarboucle. J'ai hâte de comprendre ce que ça veut dire. Les portes, on peut les définir comme un espace, comme une dimension. C'est-à-dire tout espace qui existe, toute dimension, toute surface, tout lieu, tout environnement, toute chose, j'ai envie de dire, tout système, tout mécanisme, a au moins une porte. Les principes, même les lois, les systèmes gouvernementaux, les organes, même de notre corps, ou même des organes qui sont physiques, moraux, etc. Les principes ont tous des portes. La Bible nous parle des portes de nos rêves, les portes de la justice, les portes de l'âme, tout a une porte. Et si tout a une porte, c'est que tout a une voie d'accès. Et si ça a une voie d'accès, tout peut accéder, des choses bonnes comme des choses mauvaises peuvent accéder. Et si ça accède en un lieu, et si c'est déjà présent dans ce lieu, ça va jouer son rôle. Si c'est une mauvaise chose, ça va contaminer en mauvais. Si c'est une bonne chose, ça va contaminer un peu. C'est pour ça que la notion des portes est importante. Le contrôle des portes est important. Même la possession des portes est importante. On parle des portes de nos ennemis. David nous dit dans le psaume 87, à son verset 2, que l'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. L'Éternel aime les portes de Sion. On peut ainsi comprendre un peu la tristesse et la désolation de Néhémie lorsqu'il lui fut rapporté que les murailles de Jérusalem étaient en ruine et les portes de Jérusalem étaient consumées par le feu. Ce qui était pour le peuple de Dieu cet état de choses, je cite la Bible en son verset, Néhémie chapitre 1, verset 3, dit que c'était le comble du malheur et de l'opprobre. Des portes consumées par le feu, c'est une opprobre, c'est un malheur. Que tes portes ne soient pas consumées, mon frère, mon frère. Que tes portes ne soient point écroulées. Comprenez pourquoi l'Éternel veut nous faire des portes d'escarboucle. Parce que ça ne veut pas qu'on soit dans l'opprobre. Que ce soit un malheur pour vous. Il a forgé pour nous les plans de bonheur et de paix. C'est pour ça qu'il veut traiter avec nos portes. Il veut traiter avec nos portes. Il te dit, je ferai tes portes d'escarboucle. Oh, gloire à Dieu. Merci, papa. En cette saison, oh Père, où tu veux aller loin avec nous. Merci, Seigneur, d'entreprendre toi-même de faire nos portes d'escarboucle. Merci, oh Père. Quand nous regardons la définition du mot porte, une porte est définie comme un lieu d'entrée ou de sortie. C'est un point de passage, oui. C'est un dispositif d'accès principal. Parce que quand on voit par exemple une maison, la maison a des portes et des fenêtres. On me dit si c'est un point de passage, ça veut dire qu'on peut aussi passer par la fenêtre. Mais la fenêtre ne peut pas être le passage, l'accès principal. Ce n'est pas l'accès principal. Une porte, c'est une voie d'accès qui est légale. Elle est officielle. Elle est légale. La fenêtre, non. D'autres même peuvent même passer à travers le mur. Mais ce n'est pas une voie légale. Ce n'est pas une voie officielle. Ce n'est pas une voie principale, non. Ce n'est pas une voie légitime. Ce n'est pas un accès légitime. La porte, par contre, c'est une voie d'accès légitime. C'est un point de franchissement. Ceci est un point de limitation. Parce que ça établit une limite, une frontière entre deux environnements. Je prends par exemple le cas de la ville de Jérusalem. Lorsqu'on bâtit une ville et que l'on fait une forteresse autour, son entour pour la protéger, on met toujours une porte ou des portes en ce qui concerne Jérusalem. Mais lorsqu'on voit des châteaux par exemple, lorsqu'on voit des bâtisses, il y a une porte, une entrée principale. Parce que la barrière entoure, la muraille entoure le point de vue, ce qui est dedans. Mais il faut entrer et sortir. Donc, on fait une porte pour dire aux gens, c'est par ici qu'on passe. C'est par ici qu'on doit passer, normalement. Amen. Dans la Bible aussi, nous voyons que les portes, quand on cite les portes, surtout quand on les caractérise pour les portes, ce sont généralement les lieux de rencontre publique, les lieux de siège, les lieux de négociation, les lieux même de jugement. Nous voyons dans Proverbe, quand on nous dit, quand on parle de la femme vertueuse, à Proverbe 31, à son verset 23, on dit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Amen. Dans Zacharie, à son chapitre 8, au verset 16, je lis aussi ceci. « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes, selon la vérité et en vue de la paix. » Alléluia. Dont les portes sont, comme je disais, un lieu de jugement, un lieu de négociation. C'est aussi un terrain de bataille, de victoire, de défaite. Oui, la parole de Dieu nous dit, dans une bénédiction, que tu triompheras sur tous tes ennemis à tes portes. C'est le lieu où on mène bataille. C'est le lieu où on dit, ennemi, tu ne passeras pas. Dans Nahum, le livre de Nahum, son chapitre 3, verset 13, il est écrit, « Voici, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. » Point virgule. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis et le feu consume tes verrous. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est quelqu'un, hein, c'est un peuple qui voit l'échec, à la défaite. L'ennemi est déjà en train de conquérir leurs portes. Il dit, les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Si les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis, ils ont la victoire. Tu les as fermées, mais le feu est déjà en train de consumer les verrous de tes portes. Bientôt, tu vas être assailli. Nahum crie au peuple. Amen. Dans Deutéronome 20, à son verset 11, on dit ceci. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Est-ce que ça interpelle quelqu'un là sur le fait de réfléchir par deux fois avant d'ouvrir ses portes à quelqu'un, à une situation, à une cause? Parce que si tu ouvres tes portes à un envahisseur, à quelqu'un qui ne vient pas avec de bonnes intentions, qui ne vient pas avec un cœur de bénédiction, tu vas asservir tous ceux qui sont derrière cette porte. Écoutez, c'est un texte qui dit ceci. Donc, quelqu'un peut venir vers toi avec la ruse en disant qu'il vient pour la paix. Tu lui ouvres tes portes et tu réduis ainsi tout le peuple, tout ce sur quoi tu as autorité, tu les réduis à l'asservissement. Ils se trouvent être des esclaves, tributaires et asservis. Oh, dites en Jésus-Christ, nous sommes libres. En Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit qui peut nous aider à discerner qui avance avec ruse. Et qui avance sincèrement dans la paix. Amen. Prenez soin de vos portes, mes frères, mes soeurs. L'Éternel nous interpelle. Nous avons des portes. Mais la parole de Dieu nous explique combien de fois nous pouvons être fragilisés au niveau de nos portes. Amen. J'aime aussi ce verset dans Proverbe 14, 19. Il est dit ceci de particulier. Il est dit, les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants s'inclinent aux portes du juste. Alléluia. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Quand tu es juste en Jésus-Christ et quand tu demeures, alléluia, dans la justice de Père, les mauvais s'inclineront devant toi et ils s'inclineront à tes portes. Oh, j'aime ce verset parce que nous allons réutiliser tout à l'heure pour comprendre ce que l'Éternel veut nous dire lorsqu'il nous parle d'escarboucle, lorsqu'il nous dit ce qu'il va faire de nos portes. Alléluia. Ravacha. Béni soit l'Éternel. Oui, mes frères et mes sœurs, nous avons compris ce que sont les portes, l'importance que ça peut avoir, la nécessité que celles que l'Éternel peut ouvrir devant nous doivent être ouvertes, celles dans lesquelles nous ne devons pas passer doivent être fermées. Nous avons compris la nécessité de ne pas ouvrir nos portes, de ne pas exposer nos portes à n'importe qui, de préserver cela contre l'ennemi. Oui. Nous avons compris les dimensions que peuvent prendre les portes et que nos vies en sont remplies. Notre vie de foi aussi, à l'état de la parole de Dieu. Amen. Nous avons ces portes en nous. Et comme je disais pour les créneaux, tous les jours, nous lisons la parole, nous comprenons autant qu'on peut comprendre et nous nous efforçons tant bien que mal à les préserver, à les protéger, à les fortifier. Oui. L'Éternel dit, avec ce que je veux faire avec vous, ça ne suffit pas. Vos portes sont fragiles. Vos portes sont exposées. Et pour que nous puissions aller loin, moi je vais faire vos portes d'escarboucle. Amen. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'escarboucle, quand on cherche le plan de la définition simple, l'escarboucle est défini dans la Bible comme étant une pierre ardente, étincelante de lumière, que l'on utilisait pour orner des portes. Amen. C'est une pierre. Et le mot ébène, qui vient d'un autre mot, dont le sens pratique est de construire quelque chose. Il y a un sens que lorsqu'on construit, lorsqu'on bâtit, on met des portes, nous venons de les voir. Et le mot ébène, c'était la façon dont les portes-là devaient être agencées, finalisées. Et on a donné le mot escarboucle pour qualifier cette pierre ardente qui était un étincelant de lumière que l'on retrouvait sur cette porte. Pour des raisons précises, nous allons les voir en progressant. Escarboucle aussi dictionnaire nous le dit, ou la connaissance de Pierre, le dictionnaire de Pierre nous dit que l'escarboucle, le mot escarboucle, vient d'un mot latin. Je vais vous épargner le mot latin, qui désigne le charbon ardent, la braise. Que le mot escarboucle désignait auparavant, on appelait la braise du feu, c'est ce qu'on appelait escarboucle en latin. Et il s'est avéré que lorsqu'on a découvert des pierres, on a découvert parmi des variétés de pierres, une pierre qui avait qui était brillant d'un vif éclat. Et cette pierre brillante a pris le nom d'escarboucle, même dans la Bible, tout simplement. Parce que escarboucle voulait dire braise, charbon ardent. Donc, comme c'était tellement ardent et vif à la lumière, ça a pris le nom d'escarboucle. Amen. C'est une variété de pierre, une variété de grenat, qui est une pierre qui est luisante, étincelante de lumière, de couleur braise. La couleur braise, c'est une couleur qui est rouge, soleil, comme la flamme qui se lève dans le feu, comme la flamme qui se lève dans le feu, qui est rouge par endroit, jaune par endroit, voilà. Et c'est une pierre qui a une très grande clarté. Elle est étincelante à la lumière, quand on la met au soleil, elle est étincelante. Mais même dans la nuit, elle brille. C'est-à-dire dans la nuit, cette pierre posée quelque part est visible. Elle dégage une clarté en elle-même. L'esprit me dit, je te parle de la notion de brillance, je te parle de la notion de lumière. Amen. De visibilité. Et comme nous parlons de braise et de feu, ce qui passe par le feu, c'est le feu de l'épreuve qui conduit à la manifestation de la gloire de Dieu. L'escarboucle, dans sa première approche, définit donc ça. C'est cet effet de brillance. C'est être rattaché à cette pierre que l'on incrustait dans les portes, déjà pour la rendre visible de jour et de nuit. Amen. On a défini, lorsqu'on parle des pierres, on a défini la pierre comme la mystérieuse escarboucle qui a un pouvoir éclairant que nul homme ne peut atteindre et que nulle ténèbre ne peut éteindre. Elle retient en elle une lumière admirable qui répand mille feux d'un merveilleux éclat. C'est vraiment l'escarboucle qui est définie. Et les portes qui étaient façonnées dans le temps, dans la Bible, on prenait la peine dans le bois d'incruster comme ça des pierres d'escarboucle parce que ça donnait à la porte son éclat de jour et de nuit. Les portes sont visibles de loin. Alléluia. Ça émet une lumière, une grande clarté. Et à la lumière, elle étincelle au point d'aveugler même l'ennemi. L'Éternel nous parle de la notion de brillance qui accompagne la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. La deuxième dimension de l'escarboucle, c'est qu'on définit l'escarboucle comme étant un bois aromatique odorant, dont l'essence qui contenait une essence qui rentrait dans la composition de l'huile d'onction. Waouh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, aïe, aïe, aïe. Oui, nous savons que quand on a décrit comment faire l'huile d'onction, dedans il y a des senteurs, il y a des parfums, il y a des résines, il y a des bois. Et dans mes recherches, j'ai fouillé pour savoir à quel bois se rapporte l'escarboucle. Et il s'avère que l'escarboucle se rapporte au cinnamon aromatique. Et nous savons que l'écorce du cinnamon aromatique fait partie de la senteur que l'Éternel cite dans Deutéronome pour enseigner à Moïse comment fabriquer l'huile d'onction avec laquelle il va oindre le tabernacle et avec laquelle il va sanctifier le sacrificateur et les lévites pour faire son service. Lorsqu'on enlève cette écorce de ce tronc de cannelier, le tronc est un tronc qui est tout rouge. C'est un bois rouge. Ça me fait penser un peu à un bois africain de l'Afrique centrale qu'on appelle le bubinga, qui est un bois reconnu pour sa solidité. Quand on dit on te fait un meuble de bubinga, on te fait des portes de bubinga, tu sais que ces portes sont solides, que ces portes, vraiment, même pour les fracturer, les bandits auront des problèmes. Ça m'a fait penser exactement à ça. Je n'ai pas fait des recherches plus profondes pour savoir si ce n'était pas de la même famille ou pas. Je veux peut-être poursuivre mes recherches. Mais de savoir que
L'escarboucle était rattachée à ça. Et que ce bois-là permettait de façonner la porte elle-même. Le bois de la porte. Je me suis dit, waouh. Parce que c'était un bois qui était solide. Et j'ai dit, la dimension de l'onction qui se rattache à l'escarboucle. Bien sûr, quand on parle de manifestation de la gloire de Dieu, on parle d'onction. J'ai dit, oh Seigneur, tu es si bon. Saint-Esprit de Dieu, merci. Tu es vraiment le paraclet. Tu viens nous enseigner des choses qu'on ignorait, afin que notre foi soit fortifiée. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la dimension qui est ici déclinée dans le bois aromatique, l'amande, nous ramène à un mot particulier qui est toujours une racine du mot que nous étudions, du mot ébène qui est la signification d'escarboucle. C'est le mot kadak et qui veut dire s'incliner pour se prosterner. Et je dis c'est normal qu'on s'incline et se prosterne devant quelque chose qui est loin. Alléluia. Si le bois avec lequel les portes sont faites produisent l'essence. Ils produisent une essence qui doit concourir à la fabrication de l'huile d'onction. Comment cette porte ne peut pas être bénie? Dieu nous amène à une dimension où il va faire de nos portes d'escarboucle afin que nos ennemis fléchissent les genoux devant sa grandeur. Alléluia. Pour que les impies se prosternent parce qu'ils ont vu la marque luminescence de Christ qui est en toi. Alléluia. L'Éternel nous dit qu'il nous fait nos portes d'escarboucle. Oui, Seigneur, fais nos portes d'escarboucle au nom de Jésus. Toutes nos portes, Seigneur, nous te présentons au nom de Jésus. Afin que toi, nous, tu les fasses d'escarboucle dans le nom de Dieu. Amen, 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 amen. Nos portes villes, ô Père éternel, transforme-les. Fais-les d'escarboucle dans le nom de Jésus. Merci parce que toi-même, tu as pris cette résolution. Oh, nous nous soumettons au Père éternel, nos portes d'escarboucle. Amen. La troisième dimension de l'analyse du mot escarboucle, c'est que l'escarboucle est aussi défini par extension pour représenter quelque chose de particulier. On nous dit que l'escarboucle, c'est un emblème. Ce sont les armoiries. Ça nous ramène au temps jadis, au temps des châtelains, au temps des châteaux forts, au temps où on construisait des villes et on mettait des murailles. Ça nous parle d'armoirie, ça nous parle d'emblème. Et ça nous ramène à la notion de la marque. Parce que un emblème, c'est un signe distinctif. C'est un signe, c'est une marque qui désigne la propriété des lieux. Lorsque les châtelains et tous les rois, etc., chacun a son emblème, ses armoiries. C'est un dessin, c'est comme un logo. Pour parler en termes d'aujourd'hui, c'est comme un logo. C'est un dessin qui caractérise ou qui spécifie à qui telle chose appartient. C'est une marque que chaque propriétaire inscrit sur ce qui lui appartient pour que ça puisse être distingué et reconnu comme lui appartient. Amen. C'est une marque de propriété. Les rois vont façonner leurs armoiries et on construisait comme ça. Ça pouvait être des flèches qui portaient certains signes dans un dessin assez particulier pour façonner comme un bouclier, etc. Et qui étaient accrochés ou placés au-dessus du portique, du portail, des châteaux, des portes de châteaux. Et quand tu arrivais, tu n'avais qu'à regarder le château, soit au niveau des portes, soit au niveau de tout ce qui était dessiné ou tout ce qui était représentatif, était distinctif de la personne. Tu pouvais arriver et dire, ah, ça, c'est le château de tel. Ça, c'est la propriété de tel. Parce que ça portait sa marque. C'est pareil aussi, moi je vais revenir sur un exemple tout à fait banal, qui sont les éleveurs de chevaux, les éleveurs de bêtes. Lorsqu'ils envoient leurs bêtes manger dans les prairies, dans les champs, l'herbe, sur les flancs des montagnes et tout ça, ça n'appartient pas à quelqu'un en particulier. Mais pour qu'il n'y ait pas de discussion, chacun reconnaît quelles sont ses bêtes, les bêtes sont marquées. Donc, les propriétaires, les éleveurs et tout, dans l'Ouest américain ou en Australie, etc., ils se façonnent en fer des signes distinctifs. qu'il brûle au feu et qu'il marque la bête. C'était porter leur empreinte, c'était porter leur signe, c'était porter leurs armoiries dessus. Donc cette bête, quand elle ira partout, on reconnaîtra que ça, c'est une bête qui appartient à tel. Ça, c'est une bête qui appartient au cheptel de tel. Amen. Et du temps de Châtenay, des châteaux, il y avait même, eux, ils fonctionnaient beaucoup comme ça dans des choses, des totems, des animaux, etc. Et tous ces animaux portaient des pierres d'escarboucle, c'est-à-dire le bijou mais en escarboucle, incrustaient comme ça toutes ces choses-là pour illuminer et façonner leurs armoiries, c'est-à-dire les dessins qui étaient faits sur, que ce soit leurs armes, que ce soit sur les animaux qui ornaient la devanture de leur bâtisse, que ce soit sur les portails, formaient un dessin. Et ce sont ces pierres d'escarboucle, ce sont ces pierres de grenat étincelantes de lumière qui étaient incrustées pour former ces signes distinctifs. Amen. C'était considéré comme vraiment une marque. Et je me suis dit, ah, wow, la marque de Christ sur nous. Eux, ils le faisaient pour leur propre propriété, mais nous, hein, Jésus-Christ, si l'Éternel nous dit qu'il fera nos portes d'escarboucle, il ne nous fera pas avec les signaux de quelqu'un d'autre. Christ, notre Sauveur, lui-même a ses marques. Christ, notre Sauveur, lui-même a son emblème. Christ, notre Seigneur, lui-même a ses armoiries. Et c'est ça qu'il veut incrusté dans nos portes, afin que nous soyons distingués, afin que nous soyons distingués comme lui appartenant, que nos portes soient distinguées comme appartenant à Christ. Alléluia. Je dis, je veux ta marque, Seigneur. Oui, marque mes portes de ton signe, marque mes portes de tes emblèmes, au Père éternel. Marque mes portes de ton sang, au Père éternel. Oui, marque-les. Marque mes portes de ton sang. Alléluia. Quand nous analysons ça, nous voyons que trois mots particuliers ressortent. La brillance, l'éclat, l'onction et l'emblème. Amen. Nous allons parcourir cela. La brillance, comme nous avons expliqué tout à l'heure, Dieu veut nous façonner à l'image de notre Seigneur Jésus. Qui est lumière? La parole nous dit que la parole s'est faite chair. Il est venu au milieu de nous. Il a illuminé le monde. Il est la lumière. Amen. Dieu veut nous façonner à l'image de notre Seigneur Jésus. Dieu veut que sa lumière soit visible sur nous, sur chacun de nous. Nous avons dit que tout possède une porte. Mais nous, en tant que chrétiens, tout simplement, notre être là, esprit, âme et corps, physique qui se meut là, qu'il est venu justifier par son sang, possède des portes. Et l'Éternel veut que nos portes illuminent de sa lumière. On dit, Christ est en nous, il a pris demeure en nous. Cette lumière qui est en nous doit réjaillir, ça doit être visible à nos portes. De l'extérieur, ça doit déjà être vu. Alléluia. Parce que cette lumière, il veut nous amener dans son service, le service du Père, obéissant comme lui-même à la croix, pour acter, pour œuvrer. Et l'Éternel nous dit, vous ne pouvez pas œuvrer avec moi si vous ne rayonnez pas de la lumière de Christ. Alors je veux que cette lumière rayonne sur vous. Et je définis de faire de vos portes des escarboucles. Cette lumière doit être vue. Nous rayonnons de cette lumière d'escarboucle. Nous payons le prix. Jésus a payé le prix qu'il fallait. Par amour pour les âmes. Afin que sa lumière rayonne. Alléluia. Désirons cela au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oh là là, Dieu m'en va. Nous qui avons déjà accepté Jésus, cette lumière qui éclaire tout homme doit se voir sur nous. Ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, ils n'ont pas encore conscience de la lumière qui pourrait être sur eux s'ils acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous, qui avons cru en Christ, nous devons rayonner de cette lumière, mes frères et mes sœurs. Jean 12, 36 nous dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » La parole continue en disant, Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin de ceux qui voulaient l'arrêter. Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Il y a une condition à être des enfants de lumière, mes frères et mes soeurs. Il est venu éclairer tout homme de cette lumière. Mais pendant que cette lumière, croyez en la lumière. Nous devons croire en la lumière. Nous avons cru en Jésus-Christ, Seigneur. Nous avons cru en lui. Cru que sa lumière est venue nous éclairer. Nous devons être des enfants de lumière. Aspirons vraiment à manifester cette lumière. L'éternel Dieu, notre Père, nous dit qu'il va faire une porte d'escarboucle. Que ceux qui vont nous approcher, ceux qui vont venir vers nous, ceux qui vont nous accoster, ceux qui vont nous solliciter, verront cette lumière au nom de Jésus. Amen. Job 22, 28 nous enseigne quelque chose. Il nous dit à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brilleront ta lumière. Prenons des bonnes résolutions afin que la lumière de Père brille sur nous. Alléluia. Que le temps où nous nous levons pour briller, parce que notre lumière est là, soit venue au nom de Jésus. Oui, saisissons cette bénédiction et disons au Père, oui Père, que le temps soit venu, que le temps soit venu pour que la lumière qui nous éclaire, oh rayonne, que nous nous levons et que nous prions de cette lumière qui nous éclaire. Alléluia.